إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شيخ الإسلام، aujourd'hui on a complété la sourate al-Baqara, une des sourates les plus importantes du Coran et certainement la plus longue sourate du Coran. Et parmi les versets qui ont été lus ce soir, on a retenu un verset, le verset 183 jusqu'à 184, un verset qui est en rapport direct avec le mois de Ramadan, et il était opportun d'aborder ce verset. C'est les ayats de lequel Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le jeûne à cette umma. Lorsqu'Allah ta'ala du Coran, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, le verset tout le monde le mémorise, on l'a maintes et maintes fois entendu depuis le début de ce mois et tous les Ramadan également, que dans ce verset Allah ta'ala dit: ô vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens avant vous, afin que vous obteniez la piété. Et ensuite Allah Ta'ala explique le délai du jeûne, ayyamun ma'dudat, que c'est pendant un nombre déterminé de jours. Et puis il y a différents cas de figure. Dans la suite des versets, il y a des versets en rapport avec la manière de jeûner au début de l'islam. Et il y a également différents masa'il, des cas de figure, des exceptions pour la personne qui est malade ou la personne qui est en voyage. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ, la personne qui est malade ou qui est en voyage, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ, dans ce verset, Allah Ta'ala permet à la personne malade ou en voyage de ne pas jeûner, par facilité, pour pas que le voyage ou la maladie soit difficile, trop pesant pour la personne. Elle peut donc ne pas jeûner durant ces périodes-là, mais à condition qu'elle remplace ses jeûnes par la suite. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Mais quand les ulama, les muhaddithines, ils expliquent, les mufassirines plutôt, lorsqu'on parle de فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا, cette maladie, ça concerne une petite maladie. Par exemple, quelqu'un a un peu de fièvre, ou quelqu'un, je ne sais pas, la dengue, ou des problèmes de santé minimes. Maintenant, quand c'est des problèmes incurables, qu'Allah nous protège, quelqu'un est atteint de maladies incurables, quelqu'un a un cancer, ou quelqu'un a une insuffisance rénale, la personne a besoin de faire des dialyses, qu'Allah nous protège et donne la santé à toute personne qui souffre, ou quelqu'un a des maladies un peu plus courantes comme le diabète, un certain degré de diabète que la personne doit absolument se piquer, faire des insulines régulièrement. Si elle ne fait pas, elle va avoir des variations du taux de glycémie, de sucre dans le sang, la personne peut tomber sans connaissance, faire une hypoglycémie, etc. etc. Bref. Donc dans des cas de figure comme ça, la personne normalement qu'on a ce genre de problème de santé, ce ne sont pas des problèmes qui se soignent, c'est des problèmes qui perdurent, c'est entre guillemets incurable. Donc dans ce cas de figure, c'est un autre masla qui s'applique. La personne sait pertinemment que si en 2012 elle a le diabète, c'est pas en 2013 qu'elle n'aura plus et qu'elle va pouvoir jeûner et rattraper. Donc dans des cas comme ça, la personne va donner à manger à un pauvre musulman, bien sûr, durant ce jour, parce qu'elle ne pourra pas faire de kaza. Ou alors dans le cas d'une personne qui est très âgée, quelqu'un qui a 80 ans, 82 ans, la personne est tellement faible, le médecin dit que par rapport à ses analyses de sang, par rapport à son taux de fer ou peu importe, si la personne jeûne, elle risque d'avoir tel problème de santé. Donc c'est pas à 90 ans que sa santé va s'améliorer, au contraire ça va logiquement se dégrader, donc quelqu'un d'âgé n'a pas à jeûner. Et en compensation, la personne va donner à manger à un pauvre durant ce jour. Et là, nous voyons à travers le jeûne, on a expliqué hier quelle est l'importance du jeûne dans l'islam, comment c'est quelque chose d'important. Malgré l'importance du jeûne, Allah Ta'ala a toujours pitié pour les personnes qui sont faibles, pour les personnes qui sont souffrantes, ou les personnes qui sont dans des situations difficiles, comme quelqu'un qui, même si elle est en bonne santé, mais elle est en déplacement, en voyage, sachant que le voyage, c'est toujours des difficultés. Vous voyez la rahmat d'Allah, la clémence d'Allah qu'il y a même dans les actions qui sont les plus chères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Ibn Kathir, rahimahullah, en 5 minutes, pas plus, il explique que quand Allah ta'ala annonce que le jeûne a été prescrit, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala dit en s'adressant aux musulmans que il vous a prescrit le jeûne, et il donne la définition du jeûne. Le jeûne, c'est al-imsaku 'ani at-ta'ami wash-sharabi wal-wiqa'i bi niyyatin khalisatin lillah. Jeûner, c'est quoi? C'est ne pas manger, ne pas boire, ne pas approcher sa femme sincèrement, en recherchant le contentement d'Allah. Et cette petite précision, bi niyyatin khalisatin lillah, c'est extrêmement important. C'est ce qui fait la différence entre le jeûneur traditionnel et le jeûneur intelligent. Dans tous les
cas de figure. Dans tous les domaines de notre vie, il y a des gens qui font des actions sans vraiment réfléchir, et puis il y en a qui voient beaucoup plus loin. Prenons l'exemple d'un commerçant. Quelqu'un qui a hérité d'un commerce de ses parents, ben, il a vu comment son père travaillait, mais peut-être qu'il travaillait à une certaine époque, d'une certaine façon, et que c'est plus adapté. Mais lui, il ne veut pas essayer de comprendre. Il fait pareil sans réfléchir. Alors que dans la même société, il y a un frère qui a fait HEC, par exemple, haute école de commerce. Lui, il sait exactement dans quoi il faut investir, quelles sont les règles de commerce international, etc. Bref, il a une vision d'esprit beaucoup plus profonde que l'autre personne. Assurément, celui qui réfléchit, qui analyse comment il va faire telle action, il va avoir plus de réussite parce qu'il maîtrise le sujet. Mais pareil, il y a des gens qui jeûnent parce qu'ils ont toujours jeûné, parce que ça fait partie des piliers de l'islam. Certes, le devoir sera accompli. Mais maintenant, ce jeûneur éclairé, intelligent, qui va donner un sens à son jeûne, lui, il va décoller. En plus d'avoir les récompenses classiques de base, ce jeûne-là va lui procurer une tranquillité du cœur, une quiétude et une élévation spirituelle, une élévation de l'âme que jamais il n'aurait pu atteindre en dehors du mois de Ramadan. Parce qu'à chaque fois qu'il aura faim ou qu'il aura soif, il ne va pas manger, comme tout le monde. Mais il va se dire que pourquoi je ne fais pas ça? Parce que Allah me l'a interdit. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Créateur m'a interdit de manger, de boire maintenant, donc je l'obéis. C'est-à-dire, à travers cette abstinence, qu'est-ce qui se dégage? La soumission, qu'on avait expliqué hier. Ça, c'est le mot clé du jeûne. Al-istislamu lillah. Quand on est musulman, on est musulman, c'est qu'on est soumis à Allah. Et à travers le jeûne, cette soumission, elle est vraiment mise en avant. J'ai envie de faire telle chose, je ne le fais pas. Alors que c'est pas un péché manger, boire en temps normal. Mais à partir du subh sadiq jusqu'au coucher du soleil, Allah Ta'ala me l'interdit. Donc je me soumets à Allah. Essayez de développer ça. Essayons de développer ça durant toutes les journées, durant tous les jours du Ramadan. Et vous allez voir l'effet que cela aura sur nos cœurs. À un moment donné, à force de l'intégrer, cette manière de voir les choses, quand on sera face à un péché classique, en dehors du mois de Ramadan, Inch'Allah, on aura le même réflexe. Quand on a affaire à un péché et qu'on sait pertinemment que c'est haram, on va se dire que je ne le fais pas parce que Allah Ta'ala, mon Créateur, il l'a interdit. Et Allah, il est au-dessus de moi. Allah m'observe. Et Allah ne fait pas que m'observer. Parce qu'en plus de m'observer, Allah a créé des malaïkas, des anges, kiraman, katibina ya'lamuna ma taf'alun, qui sont là et qui observent et qui écrivent chaque action que j'accomplis. Et le problème, c'est quoi? C'est que ça ne se limite pas à ça. Que quand je meurs, je retourne auprès d'Allah. Et ces livrets-là, quand je meurs, ces livrets sont pliés, sont scellés. Les livrets des anges sont scellés, personne n'y touche plus. Et le jour des comptes, Allah Ta'ala redistribuera les livrets à chaque personne qu'on avait expliqué hier. Et Allah Ta'ala dira à chaque personne, « Iqra' kitabak ». Maintenant, chaque être humain recevra son livret de compte. Et dans le livret de compte, ce n'est pas écrit des histoires. Ce n'est pas écrit comme de nos jours des accusations. Parfois, des gens ils vont au tribunal, ils racontent n'importe quoi, des tourments, des... Non, le jour des comptes, ce qu'il y a dans votre livre, c'est exactement ce qu'on a fait comme bonne et mauvaise action. Donc ça, c'est la relation entre les péchés dans ce monde et leurs conséquences dans l'au-delà. Ça, c'est le musulman intelligent, éclairé. Il dit, je ne fais pas ce péché parce que si je le fais, Allah il est content de moi. Un. Deuxièmement, les anges vont l'inscrire. Deux. Et troisièmement, quand je vais me présenter devant Allah, devant son tribunal, je vais voir ses péchés. Et devant Allah, quelle excuse je peux avoir? Est-ce que je peux dire à Allah que je n'ai pas fait Fajr toute ma vie en dehors de Ramadan parce que je suis fatigué, parce que je travaille beaucoup? C'est une excuse valable. Jamais de la vie, ce n'est pas une excuse valable. Donc ce mu'min intelligent, il fait la relation entre la vie de ce monde, les actions qu'il fait et les péchés qu'il évite et leur avantage de l'au-delà et les conséquences concernant les péchés dans l'au-delà. Ibn Kathir, quand il dit que dans ce jeûne, il y a zakat ou nafs, il y a une purification de l'âme et il y a une purification du comportement. On avait expliqué hier, jeûner c'est pas juste ne pas boire, ne pas manger, c'est également un effort à faire sur son comportement. On avait expliqué hier, si quelqu'un vous ennuie, vous agresse, toujours faire preuve de patience, ne jamais prendre la colère comme on dit, ne jamais s'énerver quand on est en état de jeûne, ça nous apprend à nous contrôler, à nous maîtriser. Et si quelqu'un s'est maîtrisé pendant un mois, il finit par s'habituer. il finit par adopter ce bon comportement, et les autres mois de l'année, ben, s'il y a un souci, il apprend à rester zen, à rester cool, à ne pas s'énerver, à ne pas... Parce que vous savez que quand on s'énerve, parfois c'est mauvais pour la santé. Il y a des gens qui font, qui peuvent avoir une crise cardiaque parce qu'ils s'énervent, il y a des gens qui ont l'hypertension, et quand ils se mettent en colère, ils deviennent rouges, et puis ils peuvent avoir un accident, des trucs graves. Tandis que si le moumine apprend à se contrôler, c'est bon pour sa foi, mais c'est également pour sa santé. Et l'objectif du jeûne, la fin du verset, comme a kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit aux autres communautés, et on a déjà expliqué maintes et maintes fois que les ahli kitab, les yahoud, les nasara, les juifs et les chrétiens, eux aussi, avaient eu cette action. Et le but c'est quoi? La'allakum tattaqoun. Et pourquoi est-ce qu'Allah ta'ala l'a prescrit aux autres communautés? À tout être humain avant nous, parce qu'Allah qui est le créateur de l'homme, il sait ce qui est bon pour l'homme sur le plan physique, pour sa santé, pour sa foi et son équilibre psychologique aussi. Et si Allah Ta'ala a pris soin de prescrire le jeûne à toute communauté avant nous, c'est que dans le jeûne, il y a quelque chose de spécial. Il y a une éducation de l'âme, et le jeûne, cette action, permet à l'homme d'atteindre la piété. C'est pour ça que Allah nous a rendu obligatoire ce jeûne. Allah Ta'ala a rendu obligatoire le jeûne à l'époque chez les chrétiens, et à l'époque avant eux également chez les yahouds, chez les juifs. Parce qu'Allah, c'est notre Rabb, notre Seigneur, notre Créateur, et il sait que cette action-là est extrêmement bénéfique pour l'homme. Parce que durant le jeûne également, Shaitan ne peut plus avoir un effet sur nous comme avant. Le nafs aussi est apaisé, l'ego. Et vous savez, quand on fait les programmes sur le nikah, sur le mariage, le prophète Sam explique que si un jeune n'a pas la possibilité de se marier, que faire pour ne pas tomber dans l'adultère, dans le péché? Le prophète Sam a conseillé à ce jeune de quoi? De faire le somme, de faire le jeûne nafil. Parce que en faisant le carême, en faisant le jeûne, ça affaiblit l'ego, ça affaiblit les passions, les pulsions, et Shaitan a moins d'emprise sur la personne. Et le verset après, Ayyama Ma'adoudat, qu'on expliquait, c'est pendant un nombre déterminé. Les Mufassirines disent que Allah Ta'ala certes a prescrit le jeûne avec tout ce qu'il y a comme bonne action, mais Allah Ta'ala ne l'a pas prescrit toute l'année. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de récompenses qu'Allah a dit que toute l'année il faut jeûner, non. Allah Ta'ala sait que l'être humain ne peut pas supporter un an d'abstinence. Un moment de l'année, oui. Comme le Hajj, lorsque le Prophète a dit qu'Allah Ta'ala a rendu le Hajj obligatoire, quelqu'un dit au Prophète d'Allah, à kullu sana, est-ce que c'est tous les ans? Le Prophète n'a pas répondu. Et puis Allah Ta'ala a révélé dans le code du Prophète que c'est une fois dans la vie. Car si le Prophète avait dit oui tous les ans, le Hajj aurait été obligatoire tout le temps. Et on n'aurait pas pu, financièrement, on n'aurait pas pu aller au Hajj tous les ans. Il y a un wasatiyya, un juste milieu dans toutes les actions de la religion. Et on voit la rahmat d'Allah, la clémence d'Allah dans toutes les choses qu'Allah Ta'ala a prescrit. Si on avait le temps, on aurait juste parlé d'un petit historique, hein, parce que comme on parle du jeûne, en deux secondes, hadith de Mu'adh ibn Jabal, il explique les quatre étapes du jeûne. Vous savez, quand le Prophète est arrivé à Médina, il n'y avait pas de Ramadan. Parce que le Ramadan a été prescrit en l'an, Yamin, en l'an, Osama, Bilal, en l'an 2 de l'Hégire. En l'an 2 de l'Hégire. Et quand on dit Hégire, c'est à Médina, c'est-à-dire pas à Makkah. Et à Makkah, ils sont restés combien de temps? 13 ans. Et à Médina, après 2 ans, donc après 15 années d'islam, après 15 années de prophétie, là seulement Allah Ta'ala a prescrit le jeûne. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médina, donc il n'y avait pas de carême de Ramadan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner 3 jours tous les mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait également le jeûne de Ashura. Ashura, c'est quelle date? 10 Muharram, d'accord? Et selon certaines sources, à l'époque, le Ashura était wajib, était, on va dire, presque obligatoire. Ça, c'était la première étape. Quel genre de carême les gens faisaient à l'époque? Le jeûne, 3 jours par mois, et Ashura, c'est tout. Il n'y avait pas encore de Ramadan. La deuxième étape, c'est la révélation du verset qu'on vient de lire. Et là, Allah Ta'ala, donc, a prescrit le jeûne. Mais la première étape du jeûne du Ramadan, c'était pas encore obligatoire. Celui qui voulait jeûner, il pouvait jeûner, mais celui qui ne voulait pas, ou qui était un peu faible, la personne pouvait donner à manger à un jeûne. Mais Allah Ta'ala a encouragé, mais le fait de jeûner est mieux pour vous si seulement vous saviez. Le jeûne a été prescrit, mais il n'était pas encore obligatoire. C'était bil khiyar, au choix. Soit vous jeûnez, soit vous donnez à manger à un pauvre. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le verset Faman shahida minkum shahra falyasumhu. Quand ce verset était révélé, maintenant le jeûne devient obligatoire sur toute personne qui physiquement peut le faire. Il n'y a plus le choix, le jeûne devient un pilier intégral de l'islam. Mais là aussi, il y avait une règle au début dans le mois de Ramadan qui était difficilement applicable. Et Allah, il savait exactement pourquoi il avait fait ça. Il y avait un masla, une règle qui n'existe plus dans notre, à notre époque, qui a été abrogée. Cette règle, c'était quoi? C'est que si quelqu'un, par exemple comme nous, là on a fait notre salat tout à l'heure, oui, on va rentrer à la maison. En général, on rentre, on mange, d'accord? Si quelqu'un, après le repas, s'est endormi, à partir du moment où la personne s'est endormie le soir, le jeûne commence obligatoirement. Le carême commence à partir du moment où la personne s'est endormie le soir. C'est-à-dire que s'il se lève de la nuit à 1h du matin, c'est trop tard, il ne peut pas manger. Ça, c'était au début de l'islam. Et il y avait eu un incident avec une personne qui travaillait, je crois qu'il travaillait la terre, le nom c'est Surman, je crois qu'il s'appelle, j'ai plus son nom en tête. Et donc, quelqu'un qui travaillait dur, il est rentré chez lui, il n'a même pas pu rompre son jeûne, il s'est allongé, il s'est mis à dormir. Quand il s'est réveillé, ben c'était trop tard. La règle était ainsi. Et donc le prophète le voit le lendemain affaibli, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il allait expliquer. Et là, Allah Ta'ala a révélé un verset qui dit que, et puis c'est en rapport également avec une autre histoire de Omar ibn al-Khattab, s'était réveillé dans la nuit et il a eu des rapports avec son épouse. Alors que, quand on a dit quand on dort, c'est fini, le carême commence. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une autre révélation de la part d'Allah, ce qu'on a lu aujourd'hui, وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ jusqu'à le verset ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Et là, le jeûne est devenu comme il l'est à notre époque. Donc il y a eu quatre étapes, petite chronologie historique du jeûne, pour savoir comment le carême, le jeûne, le ramadan est devenu obligatoire comme il l'est à notre époque. Hadith qui est rapporté par Imam Abu Daoud. Donc Allah Ta'ala nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, de bien méditer, de bien comprendre sur l'histoire de ce Ramadan et bien réaliser que c'est là un grand cadeau de la part d'Allah. Ce musulman qui peut jeûner et qui a la santé, qui n'est pas dépendant d'appareils ou qui n'est pas dépendant de médicaments ou autre chose, qui peut donc répondre présent parmi tous les jeûneurs de la Ummah, c'est un grand bienfait de la part d'Allah. On doit s'appliquer pour faire le meilleur, donner le meilleur de nous-mêmes pour faire un jeûne parfait qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accepte. Et on rappelle que demain dimanche, comme on a dit hier, tous les dimanches matin, il y a programme pour Adam à 10h15. Ici à la masjid, dans toutes les masjids de Saint-Denis et donc à Saint-Clotilde également, on dit pour dame, mais les messieurs peuvent venir aussi. S'il y a des messieurs qui veulent venir, il n'y a aucun souci, la masjid de toute façon est ouverte. Donc c'est de 10h15 à 11h15 qu'on fasse passer le message à nos mères et à nos soeurs qui sont à la maison. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.